Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le mercredi 1er décembre et on est ravis de débuter ce dernier mois de l'année à vos côtés.
On vous accompagne de bon matin, comme chaque jour, avec du sourire, comme chaque jour, et de l'actu. Et justement, à la une ce matin, Julien.
Beaucoup de politique, les suites de la candidature à la présidentielle d'Éric Zemmour, le dernier débat hier soir des candidats à l'investiture Les Républicains, et le début aujourd'hui du vote des militants pour les départager.
Et puis l'adoption hier soir à l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement.
Le texte était examiné en deuxième lecture. Sa mesure phare, allonger le délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse pour qu'il n'y ait plus, comme c'est le cas chaque année, plusieurs milliers de femmes hors délai ayant à se rendre à l'étranger pour avorter. La majorité a soutenu cette proposition de loi, mais pas le président Emmanuel Macron qui est opposé à titre personnel. C'est aussi la position de l'un de nos invités ce matin, le gynécologue Israël Nizan, pour qui allonger ce délai, c'est mettre en danger la santé des femmes qui avortent tardivement.
Il dénonce un texte nocif qui va au contraire aggraver la situation actuelle. On écoutera ses arguments à 6h10.
Omblin, vous vous êtes intéressé de votre côté au magazine Géo et à son numéro du mois de décembre qui consacre tout un dossier à Phoenix, la capitale de l'Arizona aux États-Unis.
Phoenix, un paradis en hiver, un enfer en été. En juin dernier, la température a dépassé les 46 degrés pendant plusieurs jours. C'est la métropole la plus chaude des États-Unis qui connaît année après année des températures de plus en plus élevées et surtout une fournaise de plus en plus longue.
Alors il faut dire que Phoenix, ce sont des immeubles en béton pour y être allé hein, et des routes asphaltées à perte de vue.
Ce sont aussi des climatiseurs qui tournent à plein régime et qui rejettent de l'air chaud, des arbres aux abonnés absents, en particulier dans les quartiers défavorisés. Phoenix a tous les airs d'un laboratoire pour les villes qui devront faire face demain à des canicules chroniques à cause du dérèglement climatique. On sera à 6h moins le quart avec Nadège Monchot, chef de service à Géo.
Et puis comme chaque matin, on va terminer avec votre indispensable partition.
Ces chansons font partie du patrimoine français. Laurent Voulzy, qui continue de remplir les salles, des salles de spectacle et les nefs des églises. En ce moment, rendez-vous à 6h20.
Voilà donc pour une partie du programme. Ambiance tropicale donc pour la météo.
Oui,
ce matin, Anissa Haddadi, bonjour.
D'ailleurs, écoutez bien, cœur grenadine, il y a une petite faute de français.
Ah,
écoutez bien, je vous en dirai
plus
tout à l'heure.
On la repasse en partie dans la journée.
Oui, la météo.
Oui, bah tropical. Oui, en chanson certainement. Non, on a un léger redout. Hein. Ça fait quand même un peu de mieux ce matin. Mais on a beaucoup de nuages. Le ciel est très chargé ce matin. Toute la journée, on a des nuages qui sont porteurs d'averses. Donc on a de la pluie pour quasiment tout le monde aujourd'hui, sauf des Alpes du Sud jusqu'à la Côte d'Azur et puis de la Provence aux Pyrénées. Là, on a un petit quart sud-est qui est encore au sec ce matin sous le soleil. On a du soleil, mais attention, la pluie arrive cet après-midi au bord de la Méditerranée, donc tout le monde est concerné. On a de la neige en montagne à partir de 1300 mètres sur les Alpes, les Vosges, le Jura, le Massif central et les Pyrénées. On a du vent sur le quart nord-ouest, puis en Occitanie, puis dans le Val-de-Saône, puis sur la Lorraine. Ça souffle beaucoup au bord de la Méditerranée également. Moins 6 degrés à Aurillac ce matin, moins 3 à Rodez.
Moins 13.
Moins 3, on va se calmer. 3 degrés à Clermont-Ferrand, 7 à Paris. C'est quand même beaucoup mieux qu'hier. Hein. On a 7 degrés à Lyon cet après-midi, 11 à Paris et 13 à Bordeaux.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Je suis candidat à l'élection présidentielle, donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogiez sur mon projet et mon statut.
C'était hier soir sur TF1, la toute première interview du candidat Éric Zemmour, marquée par des échanges tendus. Qu'en ont pensé ses militants? Nous avons passé la soirée avec eux dans son QG de campagne. Et face aux désormais ex-polémistes, les candidats à l'investiture LR ont joué l'unité hier soir lors du dernier débat. Coup d'envoi ce matin du scrutin pour départager les 5 prétendants. Il n'en restera qu'un samedi. 140 000 adhérents sont appelés à voter. Et puis, fumer un joint, c'est comme boire une bière en soirée. C'est l'un des témoignages que vous entendrez dans ce journal, alors que le cannabis n'a jamais été autant banalisé par les jeunes. La moitié en a déjà consommé.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce mercredi 1er décembre vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Sa candidature à l'élection présidentielle à peine officialisée, Éric Zemmour était invité aux 20h de TF1 hier soir. Une interview qui ne s'est pas passée comme le nouveau candidat aurait voulu, reprochant à Gilles Boulot d'avoir voulu faire son malin. À l'occasion de cette première intervention officielle, Victor Chabert a passé la soirée avec les militants dans son QG de campagne dans le 8e arrondissement de Paris. Et ils n'ont pas vraiment apprécié l'interview.
Le duel Éric Zemmour-Gilles Boulot dure depuis quelques minutes quand soudain...
Ce doigt d'honneur, cette main, c'est symboliquement celle du président.
Dans la salle, Gilles Boulot fait l'unanimité contre lui. En plateau, Éric Zemmour fait la remarque au présentateur.
Je suis candidat à l'élection présidentielle, donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogiez sur mon projet et mon statut. Pas sur ce que j'ai écrit, on ne va pas refaire la dizaine d'émissions que j'ai déjà faites depuis 2 mois.
Ses soutiens en sont convaincus, Éric Zemmour a fait l'objet d'un traitement particulier.
Monsieur Boulot, étonnamment, n'a pas beaucoup parlé de fond, pas une question sur son projet, pas une question sur son idéologie. Et voilà, je suis déçu qu'Éric Zemmour n'ait pas pu plus se développer.
Fin d'interview, quelques dizaines de minutes plus tard, le candidat vient saluer ses troupes au QG et débriefer.
Si vous voyez toutes les interviews de Monsieur Boulot, vous verrez que devant les autres, il s'efface. Et qu'avec moi, il s'est révélé un procureur de mauvaise foi. Et M. Boulot n'a pas fait son travail.
Éric Zemmour comptait sur ce rendez-vous solennel pour se présidentialiser et parler aux Français, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Prochaine étape, dimanche, avec son meeting au Zénith de Paris.
Éric Zemmour, fébrile, qui n'a pas la stature pour rassembler les Français. Point de convergence des candidats à l'investiture, les Républicains, hier pour leur ultime débat télévisé avant le début du congrès.
Et qui commence ce matin, ce congrès, avec le vote des 140 000 adhérents du parti qui vont devoir choisir leur candidat pour la présidentielle.
Et ils sont 5 en lice. Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Michel Barnier, Philippe Juvin et Xavier Bertrand. Alexandre Chauveau, comment va se dérouler ce congrès ?
Alors c'est un scrutin à 2 tours. Le premier aura lieu entre ce matin 8h et demain 14h avec les résultats annoncés dans la foulée. Puis le deuxième entre vendredi 8h et samedi 14h. Et c'est samedi à 14h30 que l'on connaîtra le choix des adhérents. À noter que les candidats seront représentés au siège du parti par un membre de leur équipe qui découvrira l'issue du vote en présence d'un huissier chargé d'assurer la sécurité du scrutin. Le parti veut éviter toute contestation possible, comme l'explique le secrétaire général du parti, Aurélien Pradier.
On est sur le niveau maximal de sécurité, avec des codes envoyés par numéro de téléphone portable, avec des vérifications. C'était aussi une étape nécessaire, parce que c'est celle qui fait que le scrutin sera accepté par tous, y compris par ceux qui seront déçus.
À chaque tour, c'est Christian Jacob qui appellera les candidats pour leur annoncer les scores. Le président des Républicains a également souhaité qu'il n'y ait pas de campagne de second tour pour éviter la moindre dissension. Enfin, le parti n'a pas prévu de festivités samedi à l'annonce des résultats et concentre tous ses efforts à l'organisation du grand meeting du 11 décembre, porte de Versailles à Paris.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
C'était la femme honorée hier, Joséphine Baker.
Entrée hier justement au Panthéon, première femme noire à rejoindre les grands hommes et grandes femmes honorées par la France. Emmanuel Macron a rendu hommage à l'artiste de music hall, résistante, militante, antiraciste. Un universalisme qui sonne comme un message politique.
Joséphine Baker ne défendait pas une couleur de peau. Elle portait une certaine idée de l'homme et militait pour la liberté de chacun. Sa cause était l'universalisme, l'unité du genre humain, l'égalité de tous avant l'identité de chacun, l'hospitalité pour toutes les différences réunies par une même volonté, une même dignité. L'émancipation contre l'assignation. En cela, en tout cela, devant le Lincoln Memorial, médaille de la résistance agrafée sur son revers de veste, elle était plus française que jamais.
Sur le front de l'épidémie de Covid maintenant, 47 000 cas enregistrés ces dernières 24 heures, niveau inédit depuis le printemps dernier au moment où la menace du variant Omicron plane. Des cas pourraient être identifiés dans les prochaines heures selon Olivier Véran et les interdictions de voyage n'empêcheront pas sa propagation. C'est en tout cas ce que pense l'OMS qui déconseille aux plus de 60 ans et personnes vulnérables de se rendre dans les zones à risque.
Après des semaines de doutes, Renault apporte finalement son soutien aux salariés de la SAM.
Entendez la société aveyronnaise de métallurgie en cessation d'activité depuis vendredi dernier après le refus du constructeur de soutenir le seul projet de reprise de la fonderie. Finalement, Renault revient sur sa décision mais déplore un problème systémique qui va se reproduire avec l'électrification des voitures. Jean-Dominique Sénard, président du groupe Renault.
Il se trouve que la SAM n'appartient pas à Renault, vous le savez, donc nous allons, compte tenu des circonstances exceptionnelles, regarder avec les mandataires judiciaires comment nous pouvons accompagner la reconversion et le soutien financier éventuel aux équipes de la SAM. Voilà, c'est à titre exceptionnel parce qu'en effet, les circonstances sont ce qu'elles sont. Ces équipes sont compétentes, elles ont une compétence automobile d'une manière ou d'une autre, donc je pense que leur conversion serait assez naturelle. Donc on va le faire. Nous avons clairement l'intention de faire ce qu'il faut pour qu'en effet, cette histoire se termine au mieux. Voilà, c'est ce qu'on ne peut faire de plus clair. Et d'habitude, quand je dis ce genre de choses, je ne parle pas dans le vide. Je crois que vous pouvez nous faire confiance.
Des propos recueillis au micro européen d'Aurélien Fleureau. Une manifestation de soutien aux 350 salariés de la SAM et à leurs familles est prévue en fin de matinée à l'appel de collectifs et de syndicats.
Il est 5h passées de 7 minutes sur Europe 1 et on en vient à ce constat. Les jeunes sont de plus en plus exposés au cannabis.
Parmi les 15-24 ans, près d'un sur deux a déjà fumé un joint. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans, résultat d'une enquête IFOP publiée ce matin pour High Society, société de commerce de CBD en France. Une consommation qui se fait très majoritairement pendant des soirées ou entre amis et parfois dès le lycée, comme à Marseille. Le reportage de notre correspondant Stéphane Burgat.
Depuis ses 15 ans, Théo consomme du cannabis occasionnellement.
Comme à des soirées entre amis, bon voilà, et du cannabis pour se détendre, c'est tout. Hein. C'est assez commun, ouais. On peut s'en procurer assez facilement. Mais si c'est rare, c'est pas très grave, je pense.
Et pour ces lycéens, le cannabis fait aujourd'hui partie du décor.
Ça se voit, ça se sent.
C'est vrai que devant le lycée, ça sent. Ça devient banal, quoi.
En soirée, pareil, s'il n'y a pas de quoi fumer, bah on vient pas parce que c'est nul, on s'amusera pas. Voilà. C'est aussi banal qu'un pack de bière maintenant.
Au point que certains ne voient même plus où est le problème.
Il y en a plein, ils fument des joints. C'est pas parce qu'il y en a, il a fumé un joint que c'est. Oh, faut s'affoler. Hein. C'est pas ultra grave, c'est un joint quoi. C'est comme de l'alcool.
Et plus inquiétant, cette population échappe totalement au radar des addictologues comme Nicolas Simon de l'hôpital de la Timone.
Malheureusement, les jeunes consultent assez peu pour le cannabis pour se renseigner sur les risques qu'ils peuvent prendre. Et en général, les patients qui viennent consulter sont des patients qui ont déjà un usage depuis un certain nombre d'années.
Et selon lui, les campagnes de prévention, tout comme les moyens engagés sur cette question, sont clairement insuffisants. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et selon les chiffres communiqués hier par le ministère de l'Intérieur, plus de 200 000 personnes sont mises en cause chaque année depuis 2016 par les forces de l'ordre pour usage ou trafic de stupéfiants.
Et il y a du sport ce soir, du foot, la 16e journée de Ligue 1 et un choc au programme.
PSG Nice, à partir de 21h, le premier du championnat reçoit le troisième. Très belle affiche avec des Parisiens au sommet, du moins en apparence, notamment après le sacre de Lionel Messi qui a reçu avant-hier son 7e ballon d'or. Mais en coulisses, Jean-François Pérez, les choses sont bien plus complexes.
Oui, c'est comme si le destin s'acharnait à mettre des bâtons dans les roues parisiennes. Prenez Messi, tout frais ballon d'or. Juste après la cérémonie, symptôme de gastro-entérite, entraînement raté. Il devrait présenter ce soir son trophée aux supporters, mais reste incertain pour le match. Ajoutez à cela la blessure longue durée de Neymar et les doutes récurrents sur la qualité de jeu de l'équipe, malgré ses 12 points d'avance. L'entraîneur Mauricio Pochettino est obligé de jouer aux démineurs.
On a pris un très bon départ en Ligue 1, on s'est qualifié pour les 8e de finale en Ligue des Champions. Tout cela c'est bien, maintenant il faut se concentrer sur notre style de jeu et tenter de devenir meilleur jour après jour.
Bonne nouvelle tout de même pour le technicien argentin, il a été conforté par ses dirigeants. Aucun contact avec Zidane, assure le président Nasser Al-Khelaïfi. Dans ce club en perpétuel mouvement, le présent et l'avenir portent le même nom, Mbappé, Kylian, dont la prolongation de contrat est un feuilleton qui vire à l'obsession, et Ethan, son petit frère, milieu de terrain du PSG, gaucher, dribbleur, appelé pour la première fois en équipe de France, le jeune, à seulement 14 ans.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h10 et c'est l'heure des courses sur Europe 1, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Deauville et mon pari gagnant sera le 806 Albir. N'ayant plus à faire ses preuves sur le sable fibré et souvent vu à son avantage sur celui de l'hippodrome de Deauville, il revient dans la catégorie des handicaps où il a souvent bien réussi. Dès lors, comme sa condition physique est certaine, puisqu'il vient de très bien courir sur l'hippodrome de Chantilly, il peut être considéré ici comme un coup sûr absolu à l'arrivée. Notez bien, pour cet après-midi à Deauville, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 6, Albir.
Merci beaucoup Thierry Léger, c'est noté. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Vous écoutez Europe 1, vous avez bien raison. Et vous restez pour ne rien rater du pressing.
Au menu aujourd'hui, alors attention, gare au loup. Gare aux espions biélorusses et gare aux mots pas assez inclusifs. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h11, bon réveil ce 1er décembre pendant que vous ouvrez la première fenêtre de votre calendrier de l'Avent qui referme son petit chocolat. Bah oui, ça veut dire que Noël approche. Vous l'avez, votre calendrier de l'Avent?
Oui.
On ouvrira tout à l'heure la première fenêtre. Vous écoutez le pressing, ça c'est maintenant, et nous sommes rejoints par Martin Lange que vous avez entendu. Bonjour,
bonjour
Martin.
Bonjour Lune, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux avant d'ouvrir la petite fenêtre. Congrès LR, les dés sont jetés, titre aujourd'hui en France, au lendemain du dernier débat entre les 5 prétendants à l'investiture, les Républicains. Près de 140 000 adhérents votent à partir de ce matin. Covid, la 5e vague fragilise la reprise économique, c'est la une du Figaro. Le quotidien relaie les craintes des chefs d'entreprise face à un éventuel retour de mesures sanitaires très strictes. Et puis, la course au soleil, c'est le titre à la une de l'équipe, alors qu'on en parlait un instant dans le journal, le PSG affronte ce soir en Ligue 1 l'OGC Nice, le plus ambitieux de ses poursuivants. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
Il est un grand voyageur, capable de parcourir des milliers de kilomètres pendant des mois et depuis 10 ans, il quitte petit à petit les montagnes des Alpes pour aller voir ce qui se passe ailleurs.
Vous parlez de moi ?
Presque. Dans le Massif central, en Lorraine et dans les Pyrénées. Vous avez des grandes dents, Julien ?
Ouais.
Le loup se déconfine à son tour et pour la première fois depuis un siècle, le Canis lupus, le loup gris, a été aperçu ces derniers mois dans le Calvados, près de Tours ou près d'une plage de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Et même en région parisienne, dans les Yvelines. Le loup pourrait recoloniser la France. C'est dans Libération ce matin. Alors rien d'étonnant finalement quand on sait que le loup n'est pas spécialement un animal de montagne, mais plutôt un animal de forêt. Il occupait d'ailleurs tout le territoire, voilà 2 siècles, et il est un animal avec une grande capacité d'adaptation. On l'a domestiqué il y a 15 000 ans, donc on le sait parfaitement bien. D'ailleurs, c'est le moment de lutter contre une idée reçue. Le loup n'a pas été réintroduit par l'homme, il a fait ça tout seul, car vous l'avez compris, c'est un baroudeur aguerri qui n'hésite pas à quitter sa meute pour aller chercher ailleurs de la nourriture ou pour aller se reproduire. Désormais, on peut suivre le loup à la trace grâce à des empreintes et malheureusement, lorsque sont retrouvés des moutons tués ou blessés, victimes d'une campagne d'éradication dans les années 30 en France. Depuis 2018, on essaye de réguler sa population, mais à trop vouloir réguler, le risque, c'est de le voir à nouveau disparaître. Le loup serait-il en train de gagner du terrain ? C'est un article de Libération.
Merci beaucoup, Omblin. Martin, à vous.
Vous nous disiez hier, Julien, que le métier d'agent secret était en train de disparaître.
Oui, c'est vrai.
Et bien, ce matin, je vais vous prouver qu'il a encore un bel avenir devant lui, avec cette incroyable histoire indigne d'un roman de John le Carré. Son nom, le Wagner Gate. Alors, Wagner, vous connaissez sûrement, c'est cette entreprise de sécurité privée russe accusée, pour faire court, de faire le sale boulot de Moscou en Ukraine ou encore en Syrie. On en a beaucoup parlé récemment, car ces mercenaires russes s'installent progressivement au Mali, ce qui inquiète beaucoup le Quai d'Orsay. Alors évidemment, ces combattants intéressent aussi les services ukrainiens, car ils sont accusés d'avoir commis des crimes dans l'est du pays. Des mercenaires qui, entre deux missions, attendent chez eux pendant des mois et cherchent même des petits boulots. C'est là que le GUR, le service secret ukrainien, a eu une première idée géniale, créer une fausse agence de recrutement, plus précisément une fausse société de sécurité privée. Et ils ont publié des offres d'emploi, tireur d'élite, artilleur, pour une mission précise, protéger des installations pétrolières au Venezuela. Très vite, les mercenaires de Wagner affluent, plus de 200 morts à l'hameçon. Certains font même des aveux sur leurs crimes en Ukraine. Ces mercenaires identifiés restent maintenant à les interpeller. Et c'est là que le GUR a une autre idée. Lors de leur transfert vers le Venezuela, ils vont traverser l'espace aérien ukrainien. Il suffira alors de simuler une alerte à la bombe dans l'avion pour obliger ce dernier à se poser.
Ça nous rappelle quelque chose.
Exactement, j'allais y venir. Les Ukrainiens n'auront alors plus qu'à cueillir les hommes de Wagner. Une stratégie qui rappelle, vous y faisiez allusion à l'instant, Julien, celle du président biélorusse Loukachenko qui a interpellé un opposant de la même manière en mai dernier. Le plan est parfait, mais finalement, le président ukrainien Zelensky l'annulera au tout dernier moment après un cessez-le-feu dans le Donbass. On pourrait croire que l'histoire est terminée, sauf que les mercenaires de Wagner se retrouvent bloqués en Biélorussie. Le président Loukachenko, en pleine crise de paranoïa, est persuadé que Moscou veut déstabiliser son régime. Il les enferme donc avant de les mettre aux enchères. Kiev et Moscou se les disputent, mais c'est le Kremlin qui remporte la mise et rapatrie ses hommes. Un raté que les Ukrainiens doivent aujourd'hui regretter. Depuis quelques semaines, les troupes russes se massent à la frontière, faisant craindre une nouvelle agression. Le Wagner Gate, l'histoire de l'incroyable piège tendu aux mercenaires russes par l'Ukraine, c'est à retrouver sur le site Slate.
Donc, vu le succès de cette opération, ça confirme plutôt ce que je racontais hier, c'est que le métier d'espion est en voie de
disparition. À mon avis, un très bon film d'espionnage.
Un très long film.
Peut-être, ouais. Merci pour le...
Merci beaucoup, Martin. Je sens ce matin, effectivement, comme une certaine excitation. C'est parce que Noël approche.
Ah bah oui.
On va ouvrir la petite première fenêtre.
La petite fenêtre du 1er décembre du calendrier.
Eh bien, voyez-vous, si j'étais employé à la Commission européenne, cette phrase « Noël approche », ce serait une faute. J'aurais dû éviter de la prononcer ou dire à la place « Les vacances approchent ». Oui, Noël fait partie des mots qui ne sont pas à la fête à Bruxelles. Afin de refléter la diversité, la commissaire à l'égalité vient de proscrire toute une liste de termes dans un guide interne, des termes à éviter pour ne froisser personne. C'est raté. Le document provoque même un tollé et la vive émotion du Vatican où l'on s'interroge publiquement. Voulez-vous annuler la dimension chrétienne de notre Europe ? S'est étranglé le secrétaire d'État du Saint-Siège. Résultat, rétropédalage de la commissaire à l'égalité qui a annoncé hier retravailler son livret qui, selon elle, n'était de toute façon pas encore abouti. En clair, arrêtez, vous vous offusquez sur un document de travail. Ce n'est pas vraiment ce que suggère un tweet publié fin octobre où l'on voit Elena Dali, la commissaire en question, poser fièrement avec son guide. D'ailleurs, des formations utilisant ce livret devaient être dispensées aux fonctionnaires européens dès la semaine prochaine. C'est ce que nous raconte ce matin Le Figaro qui publie des extraits de ce nouveau manuel de savoir-vivre au sein de l'Union européenne. Son objectif, que chacun se sente reconnu, indépendamment de son sexe, de sa race ou de son origine ethnique, de sa religion ou de ses convictions, de son handicap, de son âge ou de son orientation sexuelle. Voilà pourquoi, je cite le guide, vous éviterez d'évoquer les deux sexes ou de débuter un discours par « mesdames et messieurs » de manière à ne pas invisibiliser les personnes intersexes ou queers. D'ailleurs, le terme « homosexuel » doit être évité. Il peut être considéré comme offensant, nous dit le manuel, parce qu'il s'inscrit dans une optique médicale et qu'il est parfois utilisé par des militants anti-gays. Dans les courriers ou les emails, il faut bannir les messieurs écrits « M » suivi d'un point ou « madame » 2ME si on se base uniquement sur le sexe assigné à la naissance. En cas de doute, utilisez l'abréviation MX, M majuscule suivi d'un X minuscule. Il ne faut pas demander à une personne par quel pronom elle préfère qu'on l'appelle. Il, elle, voire yel, dont on parlait récemment. Car cela présumerait que l'identité de genre est une préférence personnelle, ce qu'elle n'est pas. Le mot Noël, on a vu, il faut éviter dans les discours ou les conversations parce que cela suppose que tout le monde est chrétien. De la même manière, dans les histoires que vous racontez, ne choisissez pas de prénom typique d'une religion. Au lieu de Marie et Jean, est-il écrit, préférez plutôt Malika et Julio. Il faut aussi prendre en compte les apatrides et les immigrants. Du coup, la commission préconise de ne pas employer le terme citoyen. Ne dites pas non plus la colonisation de Mars, mais plutôt l'envoi d'humains sur Mars. Voilà donc quelques-uns des conseils prodigués par ce guide. Chacun s'en fera sa propre opinion.
On peut dire Julio aussi, hein.
On peut dire Julio, oui, on peut encore dire certaines choses finalement.
Non mais Julio. Merci beaucoup MX Pierce alors.
C'est ça,
merci
ouais.
Julien Rideau sur le pressing.
Ça fait un peu DJ.
Oui, en plus c'est ça, c'est un super blaze. Merci, on recommence demain ?
Avec plaisir.
Voilà, merci. Dans une quarantaine de minutes, les sports avec vous Martin.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres de ce mercredi avec Émix Le Prince.
Une interview de procureur, le ressenti d'Éric Zemmour après sa première intervention en tant que candidat à la présidentielle hier soir sur TF1. La chaîne a réagi, le journaliste a la liberté de ses questions, l'invité de ses réponses. Dernière ligne droite pour les 5 candidats à l'investiture des Républicains avec le coup d'envoi ce matin du Congrès. 140 000 adhérents appelés à voter pour désigner le représentant de la droite à la présidentielle, résultat samedi. La situation est en train de s'aggraver. Mise en garde d'Olivier Véran hier, 47 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Et face à la menace du variant Omicron, l'OMS assure que les interdictions de voyage n'empêcheront pas sa propagation. 208 000 personnes mises en cause tous les ans, en moyenne depuis 2016, par les forces de l'ordre pour usage ou trafic de stupéfiants. Chiffre publié hier par le ministère de l'Intérieur qui dresse un profil type des consommateurs, principalement des hommes français de moins de 30 ans.
Europe 1. Très bon réveil avec nous et avec à présent les initiatives en France, tout ce qui fait bouger le pays. Et ce matin, Julien, direction le Nord.
Bonjour Xavier Lancel.
Oui, bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes l'heureux patron de Crowdfunding, une toute nouvelle librairie indépendante à Lille et la première en France, en tout cas à ma connaissance, entièrement consacrée à l'auto-édition. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait. Je crois effectivement être jusqu'à présent le seul à avoir monté ce projet. Donc c'est une micro-librairie. Alors micro-librairie déjà par la surface parce qu'elle fait uniquement 17 mètres carrés, mais elle est très bien située dans l'île rue Pierre-Mauroy, juste à côté du Parvis Saint-Maurice. Micro aussi parce qu'il y a beaucoup moins de références que dans une librairie classique. On est à peu près à 150 références tournantes. Donc l'originalité de cette librairie, c'est qu'elle ne propose que des ouvrages issus de l'auto-édition. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'artiste soit à la fois l'éditeur et le distributeur de son œuvre.
Donc ce sont des auteurs qui ne passent pas par des maisons d'édition, soit par contrainte parce que leur manuscrit a été refusé, soit par choix pour être plus libre, c'est ça ?
Alors les raisons sont nombreuses. La principale n'est pas forcément le refus du manuscrit. Alors en l'occurrence, on est plus axé sur les univers visuels, donc on a beaucoup de bandes dessinées, de fanzines, d'illustrations. Tout ce qui est roman ou essai viendra plus par la suite. La plupart des auteurs en fait le font déjà pour la liberté que l'auto-édition leur apporte, mais aussi pour la rémunération que ça leur apporte, qui est nettement plus importante que dans le circuit classique de l'édition.
Oui, parce que les maisons d'édition prennent beaucoup d'argent, en tout cas des revenus générés par l'œuvre.
Oui, les maisons d'édition prennent de l'argent, le distributeur prend de l'argent, forcément la boutique qui vend l'objet final prend de l'argent, et puis ben, il reste quelques petites miettes pour les auteurs. Il faut quand même savoir que pour les auteurs de BD en France, il y en a près de 30% qui sont sous le seuil de pauvreté, donc c'est quand même très difficile. Et ils se sont rendus compte, en fait, ces auteurs, qu'ils pouvaient effectuer le travail qu'effectuent donc ces deux intermédiaires et l'éditeur et le distributeur eux-mêmes, en passant par exemple par des plateformes de crowdfunding. Donc ils proposent leurs produits, il n'y a pas de risque financier parce qu'en fait ils opèrent comme des préventes par l'intermédiaire de ces plateformes, donc ils savent à quel tirage sortir leur bouquin et que ça sera déjà vendu. Et puis après, ils n'ont plus qu'à écouler le reste soit lors de festivals, soit par l'intermédiaire de leur site, et c'est là qu'intervient en fait.
Alors l'auto-édition, ouais, c'est la voie empruntée notamment par le romancier suisse Joël Dicker, l'auteur de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ou encore dernièrement de Kylian Mbappé. Vous, les auteurs que vous mettez en avant sont peut-être moins connus, ils ont des parcours plus cabossés ?
Alors, ils sont moins connus, et c'est un choix en fait, parce que Kylian Mbappé, je pense pas qu'il ait besoin de moi pour vendre son bouquin. Donc moi, je vais plutôt chercher des auteurs qui ont forcément une certaine qualité dans leur production, qui ont rencontré en partie leur public, mais potentiellement, ils peuvent rencontrer un public beaucoup plus important qui simplement, lui, ne se rend pas sur les plateformes de crowdfunding. Donc, il y a un potentiel de vente qui est très important, je pense.
Et puis, contrairement à un libraire classique, vous échangez directement avec les auteurs. C'est même, j'imagine, indispensable pour que vous puissiez vendre leurs œuvres.
Bah, tout à fait. Puisqu'on enlève l'éditeur et le distributeur, on arrive en fait dans un circuit très court qui va directement de l'artiste à moi, puis ensuite de moi à la personne qui va acheter le produit. Et ce qui se passe, donc du coup, je suis directement en relation directe avec l'artiste, et donc ça permet d'échanger sur comment il veut communiquer sur son œuvre. Du coup, il a un contrôle total. Ça permet aussi de négocier du coup un pourcentage de vente. En fonction des quantités que je prends, puisque moi aussi, à la grosse différence des libraires qui font du dépôt-vente, moi je fais de l'achat ferme. Du coup, je prouve aux artistes que j'ai confiance dans leur travail, c'est moi qui prends le risque financier, pas eux.
Alors ça fait quelques jours que vous avez ouvert votre micro-librairie, quel est l'accueil du public pour l'instant ?
Le public est très curieux, j'ai énormément d'artistes qui sont venus et qui sont clients de la boutique, donc du coup ça fait plaisir, et j'ai eu énormément de retours sur les réseaux sociaux de la part d'artistes en auto-édition qui m'ont félicité, qui m'ont dit qu'ils attendaient depuis longtemps qu'une telle boutique s'ouvre. Et donc ça fait plaisir en fait de voir un tel soutien. Même d'autres libraires que je connais sur la région m'ont aidé en fait dans le processus de création de l'entreprise sur les fautes à ne pas faire, etc. Donc l'accueil est très positif pour l'instant.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Xavier Lancel, de nous avoir présenté Crowdfunding, la librairie consacrée uniquement aux auteurs auto-édités. On vous trouve au 90 rue Pierre Mauroy à Lille. C'est dans l'hypercentre. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28 à Paris comme à Lens et nous sommes le 1er décembre et on jette un coup d'œil, Omblin, sur le programme de la prochaine demi-heure.
C'est mercredi, donc on parlera cinéma dans votre prescription culture. Laurie Cholleva a choisi notamment le nouveau film d'Yvan Attal avec à l'écran Charlotte Gainsbourg et leur fils Ben Attal. Les choses humaines soulèvent la question du consentement et de l'existence de la zone grise. Rendez-vous dans 20 minutes.
Mais avant, Omblin, direction Phoenix, Arizona, la ville américaine qui étouffe.
La métropole la plus chaude des États-Unis qui l'été connaît des températures record, 46 degrés en juin dernier. 5 jours d'affilée, les cactus de la région avaient besoin d'être arrosés. Le magazine Géo, ce mois de décembre, lui consacre tout un dossier. Phoenix, du béton, de l'asphalte, très peu d'ombre naturelle. Comment les habitants s'organisent? Que font les pouvoirs publics pour tenter de limiter la hausse du mercure? Nous serons avec Nadège Monchaud, chef de service à Géo.
Anissa Adadi, c'est pas Phoenix aujourd'hui. Hein.
C'est une journée pluvieuse. Quoique les températures sont en hausse, mais enfin, on n'en est pas au stade de Phoenix. On a une perturbation pluvieuse qui traverse tout le pays aujourd'hui. Donc actuellement, sur la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, la région parisienne, il pleut. Ces averses vont se déplacer. La perturbation, elle avance direction l'est. Du coup, après une matinée ensoleillée au bord de la Méditerranée, la pluie arrive à la mi-journée. Cet après-midi, entre les Pyrénées et le Grand Est, vous tirez un trait, en fait. Vous voyez, entre Bayonne et Strasbourg, tout ce qui se trouve au sud de cette ligne eh bien, sera sous la pluie. Et à l'arrière de cette perturbation, donc sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le centre-Val de Loire, on va retrouver quelques éclaircies avec un peu d'humidité. Il neige sur les sommets, hein, tous les sommets sont concernés, Alpes, Jura, Vosges, Massif central, Pyrénées, avec un fort risque d'avalanche toujours sur les Pyrénées. On a des petites gelées ce matin, moins 2 au Puy-en-Velay, moins 1 à Valence, 1 degré à Lyon, 7 degrés déjà à Paris, 8 degrés à Biarritz et au Havre et 10 degrés prévus pour Cherbourg ce matin.
Merci beaucoup Anissa Adadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
À la une de l'actualité de ce mercredi, les témoignages terribles d'un homme qui se présente comme l'un des deux seuls survivants du naufrage qui a coûté la vie à 27 migrants au large de Calais. Il affirme que les policiers français et britanniques sont restés sourds aux appels de détresse. La Haute Autorité de Santé recommande la vaccination des 5-11 ans, mais seulement s'ils sont à risque. Plus de 360 000 enfants sont concernés en France. Et puis à Strasbourg, la préfète tape du poing sur la table. Le marché de Noël est dans le collimateur des autorités qui constatent un relâchement dans le respect des gestes barrières.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. L'enquête en cours devra le confirmer, mais c'est un témoignage à la fois terrible et à charge que livre l'un des rescapés du naufrage de Calais. Il s'appelle Mohamed, il a 21 ans. Il affirme être l'un des deux seuls survivants de ce drame qui a fait 27 morts la semaine dernière dans la Manche. Et ce qu'il raconte fait froid dans le dos. Selon lui, les appels au secours n'ont trouvé aucun écho. Policiers britanniques et français se sont renvoyés la responsabilité tandis que leur embarcation prenait l'eau de toutes parts. Lionel Gougelot.
Peu de temps après avoir pris la mer dans la soirée de mardi, le bateau pneumatique sur lequel Mohamed et 32 autres passagers avaient pris place commence à se dégonfler. L'embarcation prend l'eau et après plusieurs heures passées à tenter d'écoper, les migrants se décident à appeler les secours. Le jeune homme explique qu'ils ont d'abord appelé la police française, mais après avoir indiqué leur position, on leur répond qu'ils sont dans les eaux britanniques et que les Français ne peuvent pas intervenir. Un autre passager appelle alors en Grande-Bretagne et on le renvoie vers la France. Livrés à leur sort, les passagers se tiennent par la main pour ne pas sombrer, raconte encore Mohamed. Puis ils ont perdu espoir, dit-il, ils sont tombés à l'eau. Ils ont renoncé à la vie. Dans l'eau glacée, Mohamed s'accroche comme il peut au plastique du bateau dégonflé jusqu'à l'arrivée des secours français quand les corps sont repérés par un navire de pêche de Boulogne-sur-Mer. Aujourd'hui, le jeune homme se dit menacé de mort par les passeurs. Il dit qu'il ne connaît pas leur nom, mais persiste dans sa volonté de gagner la Grande-Bretagne pour travailler et payer les soins médicaux de sa petite sœur malade restée au pays.
Le reportage de Lionel Gougelot, la rédaction d'Europe 1 a contacté le parquet de Paris en charge de l'enquête. Il confirme l'identité de ce survivant, mais il se refusait hier soir à tout commentaire sur les accusations portées par celui-ci.
Éric Zemmour met donc fin au suspense. Le polémiste d'extrême droite est officiellement candidat à la présidentielle.
Il l'a annoncé comme prévu dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont noté le souci de la mise en scène qui n'était pas sans rappeler l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Prestation moquée dans l'ensemble par la classe politique jusqu'à Marine Le Pen. Passéiste et crépusculaire, dit la présidente du Rassemblement national. Éric Zemmour a enfoncé le clou ensuite aux 20h de TF1. Il est désormais candidat et veut qu'on le considère comme tel.
Là, j'explique exactement les rapports entre les hommes et les femmes dans ce que j'appelle, ce que les scientifiques appellent leur cerveau reptilien, c'est-à-dire le désir entre un homme et une femme, pas dans la vie de tous les jours. Il faut distinguer, vous voyez, les niveaux de lecture et d'écriture. Mais vous savez, vous n'allez pas comme ça ressortir mes phrases de mon livre. Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle, donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogiez sur mon projet et mon statut. Pas sur ce que j'ai écrit, on ne va pas refaire la dizaine d'émissions que j'ai déjà faites depuis 2 mois.
Donc votre mue est en train d'être faite, ou peut-être même...
Bien sûr, ma mue est faite, et je tiens à vous dire que je pense que ma candidature est celle qui défend le mieux les femmes.
Éric Zemmour sur TF1 hier soir, le désormais candidat qui n'a pas apprécié l'interview menée par Gilles Boulot et lui reprochant notamment de s'être comporté en procureur. Réaction de la chaîne, le journaliste a la liberté de ses questions, l'invité de ses réponses.
Et dans cette course à l'Élysée, les concurrents sont presque tous en place. Du côté des Républicains, ce n'est plus qu'une question de jour.
Les adhérents LR pourront les départager à partir de 8h ce matin et jusqu'à jeudi 14h, date de clôture du premier tour de cette primaire. Deuxième tour dans la foulée et désignation du candidat officiel du parti samedi après-midi. Hier, les cinq prétendants se sont retrouvés pour un dernier débat télévisé autour de thèmes comme l'éducation, l'hôpital, l'écologie ou encore l'Europe.
Ce 1er décembre, c'est aussi l'entrée en application du dernier étage de la réforme de l'assurance chômage.
L'une des réformes emblématiques du quinquennat, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois pour bénéficier d'une allocation chômage. Pour les cadres, les indemnités diminueront à partir du 7e mois.
La crise sanitaire, la Haute Autorité de Santé donne son feu vert pour la vaccination des 5-11 ans, mais les plus fragiles.
Oui, décision qui intervient moins d'une semaine après un autre feu vert, celui de l'Agence européenne du médicament. Le gouvernement aura le dernier mot, mais il continue de consulter avant de prendre sa décision. Plus de 360 000 enfants dits fragiles seraient concernés en France. On parle de ceux dont la pathologie leur fait courir un risque. C'est une sage décision pour le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil.
Pour nous, il n'est pas encore temps de commencer la vaccination en population générale parce que les données de tolérance ne sont pas encore suffisantes, mais pour les groupes les plus à risque, il est clair qu'on peut commencer dès maintenant. Quand on prend l'exemple d'Israël, tout le monde a reçu une booster dose, une dose de rappel. Donc si tout le monde a reçu une dose de rappel, on peut, pour encore lutter contre la circulation du virus, vacciner les enfants. Mais nous, on n'y est pas encore. Il faut déjà qu'on vaccine notre troisième dose. Et après, se discutera la vaccination des jeunes enfants, en sachant qu'à cette époque-là, on aura toutes les données de pharmacovigilance israélienne, toutes les données de pharmacovigilance américaine. On aura des données très précises quant à la tolérance du vaccin.
Robert Cohen avec Céline Géraud.
L'épidémie continue sa progression en France et dans certaines villes comme à Strasbourg où on serre un peu plus la vis.
Mais plus de 47 000 cas de contamination ces dernières 24 heures dans toute la France selon le ministre Olivier Véran. Même si contamination ne veut pas dire malade, le gouvernement rappelle l'importance du vaccin et du respect des gestes barrières. À Strasbourg, eh bien, la préfète a décidé de serrer la vis dans son viseur, le marché de Noël. Mélina Fachin.
D'abord, mesure la plus marquante, les deux plus grandes places de la ville, Kléber et Breuil, vont être fermées par des barrières et il faudra présenter son pass sanitaire pour y entrer. Ensuite, le masque reste évidemment obligatoire partout, mais comme beaucoup de visiteurs ne semblaient pas au courant, des messages sonores vont leur être diffusés, les contrôles de police vont se multiplier pour verbaliser systématiquement les contrevenants d'une amende de 135 euros. Le problème, c'était surtout les zones de restauration avec pass sanitaire dans lesquelles peu de gens se rendaient pour boire et manger. Elles vont être plus nombreuses et mieux indiquées, notamment avec des ballons lumineux. Enfin, les commerçants vont devoir être bien plus stricts et inciter vivement leurs clients à aller dans ces zones, au risque de voir leur chalet fermé après un premier avertissement.
Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 à Strasbourg. Aux États-Unis, une fusillade fait 3 morts et 8 blessés dans un lycée d'Oxford. Le tireur présumé est un élève de l'établissement. Armé d'un pistolet semi-automatique, cet adolescent de 15 ans a tué 3 de ses camarades, un garçon de 16 ans et 2 filles de 14 et 17 ans. Il a été interpellé et n'a donné aucune explication sur son geste.
Si vous êtes fan des carreaux du métro parisien ou des plaques des stations, c'est une vente aux enchères qui devrait vous intéresser.
Et oui, puisque la RATP met aux enchères 215 objets du quotidien du métro parisien, bien sûr, vente accessible seulement en ligne. Arthur Pereira a pu approcher de très près quelques pièces déjà cultes.
Hop. Et voilà les portes.
Deux battants en métal bleu et blanc trônent entre les carreaux de faïence et le grand M jaune, le même qui surplombe l'entrée des stations. En tout, près de 215 objets retraçant les 120 ans d'histoire du métro. Elsa Jolimalhomme, la commissaire priseur, est toujours pleine d'enthousiasme après 2 années de travail.
Vous pouvez trouver ça nulle part en fait. C'est ça qui est très rassurant pour les collectionneurs et pour les acheteurs. Ça vient de la RATP, ça a été entretenu, ça a été protégé, ça a été soigné. Les gens ici, ils sont passionnés de leur patrimoine et ça se ressent en fait.
1200 personnes déjà inscrites à la vente. Elles auront l'occasion de donner une seconde vie à ces emblèmes du métro. Benoît Reverdy, expert de la vente, a déjà sa petite idée concernant le célèbre tourniquet.
Comme il s'ouvre un peu sur le côté, on peut peut-être le transformer en bar. Comme le corps est assez creux, si on enlève les systèmes électriques, on peut peut-être l'aménager comme les gens aménagent les tonneaux de vin.
Les bénéfices des enchères seront reversés au recueil social du métro, l'association de la RATP. L'objectif, aider les sans-abri en leur offrant de quoi manger ou encore mieux, de quoi se loger.
Arthur Pereira, la vente en ligne de ces objets de la RATP du métro parisien, eh bien c'est jusqu'au 3 décembre.
C'est noté, on n'y manquera pas. Merci beaucoup. C'était le journal de Christophe Lamarre. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet à ne pas manquer, évidemment, avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Deauville que va se courir ce Quintet à handicap sur la distance de 1900 mètres. Avec 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu, le numéro 16 ayant déclaré forfait. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 14, Super Super Sonic, un poulain âgé de 3 ans qui défie ses aînés sur une piste en sable fibré sur laquelle il n'a encore jamais connu la défaite. On lui opposera les numéros 1, Chasselet, 2, Koshenko et 3, Goya Senora, très confirmés eux aussi sur cette surface et qui n'ont plus à faire leur preuve dans cette catégorie des quintés. Ensuite, méfiez-vous de High Barry, le numéro 6, irréprochable à ce niveau, et de Ficelle du Houlet, le numéro 8, à l'arrivée de ce quintet lors des deux dernières éditions. Enfin, les numéros 15, Népalais, et 10, Bozio, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, As, 2, 3, 6, 8, 15... et 10.
Bon alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave. Les pronostics sont à retrouver dès maintenant sur Europe1.fr.
Vous n'avez pas noté ?
J'ai pas eu le temps, alors Europe1.fr tout de suite. Merci beaucoup Thierry Léger et à demain.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et les récits de Pauline Jacquot. Bonjour Pauline.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
C'est aujourd'hui qu'est présenté en Conseil des ministres un projet de loi pour mieux protéger les agriculteurs face aux aléas climatiques. C'était un engagement de Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, réformer l'assurance récolte. Comment indemniser les agriculteurs touchés par le gel, la grêle ou la canicule? Question en évolution permanente, question qui naît, Pauline, à la fin des années 70, lorsque la sécheresse de l'été 76 devient une calamité nationale.
Les mots sont ceux de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Au nord, à l'ouest, tout autour de Paris, des températures caniculaires brûlent les champs. Il ne pleut pas une goutte. La France suffoque, le bétail survit, tant bien que mal, et la sécheresse ravage les cultures. Dans les journaux d'Europe 1, tout l'été, les reporters partent à la rencontre des agriculteurs.
Prenons tout de suite la route de Velard-en-Ouche, en Côte d'Or, où monsieur Paul Modin fait ce qu'il peut pour préserver son troupeau de bovins sélectionnés de la race Pirouge de l'Est.
Nous avons des rendements catastrophiques. Cette année, j'ai récolté environ 3000 bottes de luzerne. Habituellement, j'en fais 10 à 12000. Pour moi, il est important d'avoir beaucoup de fourrage et de bonne qualité.
Le printemps a été trop sec, l'été trop chaud, les prix des fruits et légumes s'envolent, la sécheresse devient prioritaire. Le gouvernement fait appel à l'armée, c'est ce que l'on a appelé le plan paille, déclenché fin juin 76 par le ministre de l'Agriculture, Christian Bonnet.
Il faut sortir la paille des champs, la sortir très vite, la botteler, de façon à ce que les céréaliers puissent retrouver la disposition de leurs champs rapidement.
Les militaires récoltent et transportent le fourrage vers les régions qui en manquent le plus.
De leur côté, les agriculteurs, Pauline, attendent toujours les aides du gouvernement.
Ils s'impatientent, la sécheresse dure, il faut agir vite, mais le gouvernement attend la fin de l'été pour évaluer les pertes et réfléchir aux indemnisations. Jacques Chirac, le Premier ministre, prévient les Français.
Le gouvernement étudie actuellement les mesures qui permettront de compenser intégralement la perte subie par les agriculteurs. Ce sera sans aucun doute un sacrifice important.
Les agriculteurs patientent et la sécheresse dépasse les frontières françaises puisque le pape invite les catholiques à prier pour la pluie. Dans les villages, les prêtres adaptent leurs sermons.
Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin afin qu'étant rassurés pour les fruits de la terre, nous puissions mieux rechercher les biens d'éternité.
Prière pour les uns, grève immédiate pour les autres. À Paris, les conducteurs de bus débrayent.
La vie est vraiment intolérable.
C'est intolérable. Je vous dis, il y a 60 degrés dans les autobus. Alors les gens qui iront en chaud, mais ils y restent un quart d'heure. Mais nous, toute la journée, nous sommes dans les autobus avec ces 60 degrés.
Les paysans auront finalement une réponse fin août. L'État leur accorde 2 milliards de francs et annonce un impôt, l'impôt sécheresse, qui va concerner 2,5 millions de Français. L'opinion publique juge cette taxe injuste. Les agriculteurs sont choqués par la réaction des Français. L'idée n'a plus jamais été reprise. Quelques jours plus tard, Raymond Barre est nommé à Matignon, à la place de Jacques Chirac.
Merci beaucoup Pauline Jacquot et à demain.
Il est 5h43, vous restez avec nous et on va prendre la direction de Phoenix, Arizona, la ville américaine en surchauffe.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h et passé de tout juste 44 minutes sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il vient de sortir en kiosque le numéro de décembre du magazine Géo consacre tout un dossier à la ville de Phoenix, située en plein cœur de l'Arizona. Phoenix, la métropole la plus chaude des États-Unis où ses habitants doivent s'adapter à des températures de plus en plus élevées. On en parle en bline avec Nadège Monchaud, chef de service à Géo.
Bonjour Nadège Monchaud.
Bonjour.
Phoenix, Arizona, et je reprends les mots de la première page du dossier de votre magazine Géo. Un four en plein désert, 300 jours de soleil par an qui ne font pas forcément le bonheur de ses habitants. Alors faisons d'abord un état des lieux par rapport à d'autres villes de l'Arizona ou des états voisins. Qu'est-ce qui explique que cette ville de Phoenix en particulier devienne une fournaise en plein été?
Déjà sa situation géographique puisqu'elle est dans le désert de Sonora. Et ensuite, parce que c'est une ville déjà très grosse, très importante, 5 millions d'habitants, mais aussi très étalée. En superficie, c'est 13 fois Paris. Donc, il y a énormément d'asphalte, énormément de béton et très peu de végétation. Et en fait, c'est des pièges à chaleur. En fait, le béton, l'asphalte, ça garde la chaleur la journée. Et ça leur rejette même la nuit. Donc, même la nuit, la ville ne se refroidit pas.
Oui, c'est ça, il n'y a pas de répit puisqu'il est noté dans cet article de Géo que les climatiseurs rejettent de l'air chaud, donc ça ne s'arrête jamais.
Oui, c'est du non-stop en fait. Les climatiseurs, mais aussi effectivement le béton des immeubles, l'asphalte des routes. C'est pour ça que la ville teste par exemple des nouveaux revêtements qu'ils appellent des cool pavements. Donc c'est pour essayer de refroidir un peu tout ça, quoi.
En juin dernier, la température a dépassé les 46 degrés pendant plusieurs jours. Alors ce qui est extrêmement frappant, et c'est la photo qu'on découvre au début du dossier, en tout cas moi c'est ce qui m'a marqué, les cactus de la région étouffent et ils ont besoin d'être arrosés. Ça dit tout quand même.
Oui, parce que ces cactus, normalement, ils sont typiques. D'ailleurs, ils n'existent nulle part ailleurs au monde. C'est les fameux saguaros qui peuvent faire une quinzaine de mètres de haut. Mais même eux, en fait, ne supportent plus les températures parce qu'en fait, normalement, ils ont un peu de répit la nuit. Comme nous, les corps des humains ont besoin de répit la nuit en cas de canicule. Mais là, même les cactus endémiques de la région n'arrivent plus à supporter.
Oui, alors les habitants, comme les cactus arrosés, les habitants ont recours à quelques systèmes D. Comment essayent-ils de vivre, voire de survivre l'été?
Déjà, ils décalent leurs horaires. Par exemple, ils font du sport la nuit. Les joggeurs, tout ça, les randonneurs, ils vont se balader la nuit avec des lampes frontales. Après, il y a plein de... Ils se réfugient dans les centres commerciaux, les cinémas, les salles de sport qui sont climatisées. C'est comme ça que, par exemple, les centres commerciaux appâtent les clients. C'est qu'ils affichent à l'entrée la température à l'intérieur pour donner envie aux gens de rentrer. Et puis après, au quotidien, ça fait plein de petites astuces pour ne pas se brûler. Par exemple, quand on touche le volant de sa voiture, tous les volants des voitures sont recouverts de tissu. Les boîtes aux lettres qui risquent de fondre au soleil sont protégées aussi. Il faut s'adapter en permanence.
Et les chiens sont équipés de bottines pour la promenade. On met des petits chaussons aux chiens l'hiver pour la neige et on en met à Phoenix, Arizona, en plein été pour pas qu'ils se brûlent les pattes. C'est assez,
exactement,
incroyable.
Et on donne des glaçons aux tigres dans les eaux pour qu'ils se... pour qu'ils aient moins chaud.
Alors avec le dérèglement climatique, Phoenix est devenu un laboratoire expérimental pour les villes en surchauffe. Vous avez déjà parlé de ce revêtement de rue, mieux adapté aux conditions extrêmes. On cherche des solutions pour continuer à y vivre l'été. Donc, qu'est-ce qu'on essaye également de faire sur place? La végétation notamment, ils essaient de trouver des solutions?
Oui, effectivement, parce qu'en fait, l'ombre, c'est important. Donc, les chercheurs de l'Université d'État d'Arizona travaillent avec des espèces de sondes mobiles qu'ils baladent dans la ville pour voir quels types d'ondes sont plus bénéfiques au corps humain, celles projetées par les immeubles, celles projetées par la végétation ou celles projetées, par exemple, par des parasols ou des auvents. Donc déjà, ils essayent d'analyser toutes ces données pour après aménager la ville en fonction. Et la végétation, c'est clé en fait aussi pour faire baisser la température. À Phoenix, il n'y a que 5% de la surface qui est on appelle ça l'indice de canopée, qui bénéficie de l'ombre projetée par des arbres. Donc l'idée, c'est de planter le plus d'arbres possible pour effectivement avoir plus d'ombre. C'est une des solutions qui est envisagée, mais voilà. Il faut y aller vite avant qu'un arbre pousse. Donc.
Bien sûr. Alors c'est ce qu'on découvre d'ailleurs, c'est que l'ombre végétale est un marqueur d'inégalité. Il y a une vraie différence entre des quartiers riches, blancs, et des quartiers majoritairement peuplés de latinos ou d'afro-américains.
Oui, en fait, les quartiers un peu huppés sont beaucoup plus arborés que les quartiers plus pauvres. Et donc, ce qui fait que les chercheurs ont noté des différences parfois de 7 degrés. le même jour à la même heure entre ces différents quartiers qui sont parfois distants de seulement 3 km. Et ça, c'est dû au manque de végétation.
Merci Nadège Monchaud, chef de service à Géo. Le numéro du mois de décembre est en kiosque avec ce dossier passionnant sur Phoenix, signé Laure Andrion et Olivier Touron, avec également, et c'est en couverture hein, de ce Géo, la Patagonie chilienne, synonyme d'immense bol d'air et de liberté. Et puis le grand entretien de l'anthropologue et sociologue Jean-Didier Urbain qui explique comment le tourisme aujourd'hui doit évoluer. Merci.
Merci.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Allez, on revient en France où ce qui est chaud, c'est l'actualité présentée par Alban Le Prince.
Homme français âgé de moins de 30 ans, voici le profil type du fumeur et du vendeur de cannabis en France. C'est ce qui ressort des chiffres du ministère de l'Intérieur publiés hier. 208 000 personnes sont d'ailleurs mises en cause chaque année par les forces de l'ordre depuis 2016 pour usage et trafic de stupéfiants. 47 000 cas de Covid en 24 heures, un niveau inédit depuis le printemps dernier et la situation est en train de s'aggraver. Mise en garde hier d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Le journaliste a la liberté de ses questions, l'invité de ses réponses. Réaction de TF1 après l'interview d'Éric Zemmour hier soir. Officiellement lancé dans la course à la présidentielle, le désormais ex-polémiste a fustigé une interview de procureur.
Bon réveil sur Europe 1 avec à présent votre prescription culture.
Et comme chaque mercredi, on parle musique, cinéma avec Laurie Choleva.
Bonjour Laurie.
Et vous avez
bonjour
choisi
Emily,
pour nous
bonjour,
ce matin Laurie, un film qui nous plonge dans un procès.
Et oui, un film puissant signé Yvan Attal, Les choses humaines.
Ma fille a porté plainte pour viol contre ton fils.
Impossible, ça n'a aucun sens.
L'enquête est en cours.
Vous êtes placé sous contrôle judiciaire. Vous pourriez vous retrouver en prison.
Notre fils, bon, c'est sûrement une folle.
Et s'il l'a vraiment violé?
Mais tu te rends compte de ce que tu dis?
Un homme peut mentir parce qu'il a peur, parce que la réalité de ses actes lui paraît insupportable.
J'ai rien fait, c'est un cauchemar.
Vous l'avez suivi de votre plein gré?
Il m'avait dit qu'il avait un couteau.
Il vous a menacé avec ce couteau?
Sa vie va être foutue!
La vie de qui, Claire? La vie de qui va être foutue? La vie de qui?
Et c'est vraiment un film complètement d'actualité, adapté du roman de Karine Thuil, prix Goncourt des lycéens, qui parle de cette fameuse zone grise du consentement dans une affaire de viol. Alors l'histoire, c'est celle d'Alexandre, fils d'un journaliste star de télé, incarné par Pierre Arditi, et d'une philosophe féministe jouée par Charlotte Gainsbourg, qui est un couple séparé. Lui, le jeune garçon, est de retour des États-Unis. Et puis il part en soirée avec Mila, jouée par cette jeune comédienne, Suzanne Jouannet, qui est donc la fille du compagnon de sa mère. Et malheureusement, le lendemain, la jeune femme accuse Alexandre de l'avoir violée. Écoutez, Yvan Attal nous expliquer pourquoi il a eu envie d'adapter ce roman.
Je suis père d'un garçon, père de deux filles, donc j'étais bouleversé par ces deux jeunes gens et leurs parents. Et effectivement, en fonction du côté où je me trouvais, j'avais envie d'exterminer l'autre. C'est vrai que j'y ai vu un film. Comme il y avait beaucoup d'émotions dans ce livre, tous les dommages collatéraux, les histoires d'amour qui explosent, les convictions qui volent en éclats.
Et c'est puissant pour tout ce que ce film raconte, comment respecter une victime tout en respectant la présomption d'innocence de l'accusé, la difficulté aussi de rendre justice aujourd'hui lorsqu'on parle d'un acte qui est commis finalement dans une stricte intimité, sans témoin, avec des perceptions différentes. Le film parle de tous les dommages collatéraux. Là, en l'occurrence, il y a ce couple reconstitué que forme Charlotte Gainsbourg avec Mathieu Kassovitz qui forcément va voler en éclats. Et puis, le film, surtout, est porté par deux jeunes brillants acteurs, Ben Attal, le fils d'Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, et Suzanne Jouannet qui joue la plaignante. Alors, est-elle victime? A-t-elle menti pour se venger? Est-il le monstre décrit dans le procès? Pour le savoir, franchement, je vous encourage à aller le voir dès aujourd'hui au cinéma.
Et puis également, cette semaine, Laurie, un nouveau biopic.
Oui, sur peut-être les deux plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, Venus et Serena Williams. Le film s'appelle La méthode Williams et raconte les coulisses de l'ascension de Venus et Serena et surtout le rôle déterminant de leur père, incarné par Will Smith.
J'ai écrit un plan de 78 pages décrivant leur entraînement avant qu'elles viennent au monde. Regardez-les faire quelques balles.
D'accord. Vous vous appelez comment déjà?
Moi, c'est Venus.
Et moi, Serena.
Alors, faut savoir que le film est vraiment très réussi. Et puis, de toute façon, l'histoire de ces sœurs est quand même dingue. Richard Williams, le père omniprésent dans la vie de Venus et Serena, qui a décidé de leur destin dans le tennis avant même leur naissance. Il est allé voir sa femme pour lui dire qu'il devait avoir deux enfants qui deviendraient les numéros 1 et 2 du tennis mondial. Et ça, c'est Will Smith qui l'explique dans une interview. Et le film s'attarde vraiment sur cette vision, sur cette ambition parfois étouffante, souvent à contre-courant de Richard Williams, pour faire finalement de ces deux joueuses de tennis, deux femmes noires de tennis d'exception dans un milieu essentiellement blanc.
La méthode Williams avec entre autres Will Smith et Les choses humaines de Yvan Attal, les deux films que vous nous conseillez cette semaine. Merci beaucoup Laurie Choleva. Vous écoutez Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Excellent mercredi avec nous sur Europe 1, le 1er décembre. Oh, c'est le 1er décembre, c'est presque la fête. Il est 5h57. La météo à suivre, le journal. Et puis, on revient sérieux, un texte loin de faire l'unanimité.
Un texte que les députés ont pourtant adopté hier soir pour la deuxième fois. Il s'agit de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Sa mesure phare, allonger le délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. La majorité y est favorable, elle a voté pour, mais pas le président Emmanuel Macron qui est opposé à titre personnel. C'est aussi la position de notre invité dans une dizaine de minutes, le gynécologue Israël Nizan, pour qui allonger ce délai, c'est mettre tout simplement en danger la santé des femmes qui avortent tardivement. Le problème, c'est qu'à Paris, par exemple, il faut attendre jusqu'à un mois pour obtenir une IVG. Que fait-on de ces milliers de femmes obligées d'aller à l'étranger car ayant dépassé le délai légal en France? Autant de questions que l'on posera tout à l'heure au professeur Nizan. Rendez-vous 6h10. On écoutera ensuite votre partition, Omblin.
Il est l'un des meilleurs mélodistes et arrangeurs français.
Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.
Laurent vous le dit avec souvent Alain Souchon dans l'ombre. Et inversement, la partition dans 20 minutes.
Anissa Dadi, de retour pour la météo. Météo ce matin, douce et humide.
Oui, c'est vrai qu'on a un net redout hein, des températures. Alors, c'est provisoire. Hein. Ne rangez pas trop vite les doudous, nos placards.
Vous nous faites tout, tous les jours. Tous les jours, une petite bonne nouvelle et derrière, une grosse mauvaise.
Mais non, mais parce que je veux pas vous faire croire n'importe quoi. Vous voyez, je veux vous préparer au pire. Ce matin, nous avons quelques petites gelées sur les régions centrales. Moins 6 à Aurillac, moins 3 à Rodez, moins 2 au Puy-en-Velay. On a 2 degrés à Toulouse et Belfort. 7 pour Paris, 11 à Bonifacio, il fait bien plus doux hein, cet après-midi, 6 degrés à Grenoble, 9 à Clermont-Ferrand, 11 à Paris et Lille, 13 degrés à Bordeaux, 14 à Marseille et 16 à Nice. Alors dans le ciel, là nous avons quand même un mercredi très pluvieux, vous le disiez Julien, avec une perturbation hein, qui ce matin touche d'abord le quart nord-ouest du pays, ça va des Pays de la Loire jusqu'à la région parisienne. Et puis à la mi-journée, la perturbation avance vers l'est et vers le sud, donc des Pyrénées jusqu'au Grand Est et puis sur la Provence, les Alpes du Sud, sur la Côte d'Azur, l'Occitanie. Il va pleuvoir cet après-midi. On a beaucoup de vent aussi sur une grande partie du territoire.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Vous écoutez Europe 1. Nous sommes le mercredi 1er décembre. Très bon réveil à tous, il est 6h. Le dépistage du VIH en France, freiné par la crise sanitaire. Le nombre de tests a diminué de près de 15% en un an. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida aujourd'hui. En France, 200 000 personnes vivent avec la maladie et les préjugés perdurent. La réforme de l'assurance chômage, le dernier volet du texte, entre en application aujourd'hui. Deux changements majeurs, la durée d'affiliation et la dégressivité des allocations. On vous explique tout dans ce journal. Et puis la suite de la saga littéraire Millennium. L'éditeur annonce une troisième trilogie pour cette poule aux œufs d'or. Les premiers opus se sont déjà vendus à 100 millions d'exemplaires dans 50 pays.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Ne pas se tromper d'ennemi. La cinquième vague de l'épidémie est celle du variant Delta. 47 000 nouveaux cas en 24 heures. Énième record depuis le printemps. Et les hospitalisations aussi progressent, plus 25% en une semaine.
La pandémie de Covid qui a fait passer au second plan un autre virus tout aussi redoutable, le VIH, responsable du sida. Ce mercredi, c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie.
En France, le nombre de dépistages a diminué de 14% en un an, selon les autorités sanitaires. 200 000 personnes vivent avec le VIH et sous le regard des autres aussi. Afsane Saboui.
Tout s'explique en un chiffre. Tiré d'une enquête CSA pour le Centre francilien d'information et de prévention du sida, 73% des Français ignorent qu'une personne séropositive sous traitement ne peut plus transmettre le virus. Au quotidien, elles sont donc très souvent confrontées aux préjugés et aux discriminations liées à cette méconnaissance. Jusque dans le secteur médical, comme en témoigne Flavie, 57 ans, dont 35 de séropositivité.
C'est vrai qu'on croise encore des dentistes, des services gynéco qui vous demandent de passer les dernières. On vous explique que c'est plus prudent, qu'on vous prendra en fin de journée. J'ai été blessée, j'ai été humiliée, j'ai pleuré, j'ai crié. Maintenant, j'ai 35 ans de recul. Maintenant, je suis étonnée.
Comme Flavie, ils sont 5 séropositifs à avoir accepté de l'assumer au grand jour et de poser visage en gros plan pour la nouvelle campagne de l'association AIDS. Une première depuis sa création en 1984 et surtout un nouveau pas pour faire du sida une maladie chronique comme les autres.
Afsane Essaboui, spécialiste santé d'Europe 1. La bataille a pris fin tard dans la nuit à l'Assemblée nationale, celle sur l'interruption volontaire de grossesse. Les députés ont adopté la prolongation du délai légal de 12 à 14 semaines. 63 voix contre 30. Un vote contre l'avis d'Emmanuel Macron opposé à cette réforme, tout comme le Sénat qui doit désormais se pencher sur le texte.
Et on en parle dans un peu moins de 10 minutes avec notre invité, le gynécologue Israël Nizan. Ils sont encore 5, mais dans 3 jours, il n'en restera plus qu'un. Ce matin, les candidats à l'investiture LR se soumettent au vote des quelques 140 000 adhérents. Ouverture du scrutin à 8 heures pour le premier tour.
Et dernier débat hier soir, le quatrième depuis le début de la course. 3 heures d'échange où les prétendants ont parfois montré l'écrou, comme entre Valérie Pécresse et Michel Barnier au sujet des dépenses publiques. La présidente de la région Île-de-France propose la suppression de 150 000 postes de fonctionnaires. Un choc de simplification que la candidate veut mener grâce à, je cite, un comité de la hache. Écoutez.
Derrière les chiffres de la hache et du rabot de Valérie Pécresse, il y a des hommes et des femmes. Tu as parlé de hache, c'est encore pire.
C'est pour les procédures.
Pas
pour
derrière les ces chiffres, il y a des hommes et des hommes et des femmes qui méritent d'être respectés.
Vous êtes choqué par le comité de la hache de Valérie Pécresse?
Oui, je le suis parce que pense que la réforme de l'État doit être l'objectif et que s'il y a des changements dans les nombres de fonctionnaires, ça doit être le résultat, pas l'objectif. Mais il y a des hommes et des femmes derrière ces chiffres.
Valérie Pécresse, aucune ambiguïté. Mon comité de la hache s'applique au code du travail, au code de l'urbanisme, au code de la construction qui ont bien besoin d'être hachés menus.
Autre thème du débat, l'assurance chômage. Dans son programme, Valérie Pécresse appelle à pousser plus loin, je cite, la dégressivité des indemnités. Xavier Bertrand lui défend une assurance de retour à l'emploi.
L'assurance chômage, c'était l'un des grands chantiers du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce mercredi, le dernier volet de la réforme entre en application.
En octobre déjà, c'est d'abord le calcul des indemnités qui avait été modifié. Élise Dangean, ce 1er décembre, quelles sont les nouveautés pour les chômeurs ?
Alors d'abord, ce qui change, ce sont les conditions qui ouvrent des droits au chômage. Désormais, pour pouvoir être indemnisé, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois sur les 2 dernières années au lieu de 4 jusqu'ici. Pour les plus de 53 ans, ce sont les 3 dernières années qui seront prises en compte. Cette nouvelle règle va s'appliquer à tous les nouveaux chômeurs à compter d'aujourd'hui. Si vous êtes par exemple saisonnier, que vous travaillez à la montagne l'hiver, il vous faudra 2 saisons et non plus une pour pouvoir toucher le chômage. Selon une étude d'impact de l'UNEDIC, ce changement va retarder l'ouverture de droits à 475 000 personnes dès la première année d'application. L'autre mesure qui entre en vigueur aujourd'hui, c'est la dégressivité plus rapide des allocations pour les cadres. Si vous avez moins de 57 ans et que vous gagnez plus de 4 500 euros brut par mois, vos droits baisseront d'un tiers à partir du 7e mois de chômage. C'est 2 mois de moins qu'aujourd'hui. Cette mesure concernera environ 60 000 personnes l'an prochain.
Élise Dangean du service économie d'Europe.
Vous connaissez très certainement l'adage, mais 203, surtout pour un succès planétaire. La saga littéraire Millennium va avoir une suite.
Une nouvelle trilogie, annoncée hier en effet par l'éditeur. C'est la 3e après celle de Larsson et de Lagercrantz. Retour sur ce phénomène made in Suède avec Nicolas Caro.
C'était le phénomène littéraire des années 2000, les aventures de Mikael Blomqvist et Lisbeth Salander avec ses côtés punk et antisocial, mais ce n'était pas du tout un succès annoncé. L'affaire était trop belle et une deuxième trilogie a suivi avec le Suédois David Lagercrantz. L'éditeur Polaris a racheté les droits et vient d'annoncer la sortie de 3 nouveaux romans. Mais encore faut-il trouver l'écrivain capable de s'en charger. A priori, ce ne sera pas David Lagercrantz qui avait eu du mal à gérer l'énorme pression Millennium pour la deuxième trilogie, comme il nous l'avait confié en 2017 sur Europe 1.
Bien, vous savez, j'avais un ordinateur déconnecté d'Internet et je ne pouvais rien envoyer par mail. J'avais une clé USB et je vérifiais tout le temps s'il était bien dans ma poche, si je l'avais bien sur moi. Et quand j'allais rencontrer mon agence, on est complètement parano. Parfois, j'étais complètement hystérique, totalement dingue.
Ce qui est sûr, c'est que l'éditeur ne tuera pas sa poule aux œufs d'or. Au total, traduit en 50 langues, Millennium s'est écoulé à 100 millions d'exemplaires dans le monde.
Nicolas Caro.
C'était le journal de Roman Hockey. Merci beaucoup, Roman.
Il est 6h06. Sur Europe 1, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange avec la 16e journée de Ligue 1 ce soir.
Oui, une affiche pour commencer. Le PSG reçoit Nice au Parc des Princes dans ce qu'on pourrait appeler le choc des nouveaux riches. D'un côté, le PSG version Qatar. De l'autre, Nice, propriété du géant de la chimie Ineos. Deux clubs aux très grandes ambitions et qui ont réussi leur début de saison. Coup d'envoi à 21h ce soir. A noter que Lionel Messi présentera son tout nouveau ballon d'or au public parisien.
Dans les autres matchs de la soirée, Martin.
Le deuxième, Rennes reçoit le champion en titre Lille. Reims se déplace à Lyon sans son entraîneur Oscar Garcia, testé positif au Covid. Enfin, Nantes accueille Marseille. Premier déplacement des Olympiens depuis le jet de bouteille qui a touché Dimitri Payet il y a 10 jours à Lyon. Des incidents dont les Marseillais sont désormais coutumiers. Mais l'entraîneur nantais Antoine Comboiré a prévenu ses supporters. Il est hors de question qu'il y ait récidive ce soir.
Là, on va jouer contre Marseille. Si demain un supporter de chez nous agresse un joueur de Marseille, nous on ne peut pas jouer parce que Marseille va être diminué. On ne peut pas jouer. C'est plus la même équipe de Marseille. C'est fini, on ne parle plus de foot. Hein.
Enfin, pour clore la page foot, les Bleus au féminin ont fait un grand pas vers la qualification pour la Coupe du Monde 2023. Victoire 2-0 contre le Pays de Galles hier soir.
De la voile et un bateau à la conquête du trophée Jules Verne.
Oui, le maxi trimaran Sails of Change est prêt à quitter son port d'attache de la Trinité-sur-Mer pour s'attaquer au record autour du monde à la voile. Mais pour l'instant, les conditions météo ne permettent pas d'envisager un départ dans les meilleures conditions. Alors pour Yann Guichard et son équipage, il faut prendre son mal en patience.
C'est notre quatrième tentative. Le jour où on rentre en stand-by, déjà, il faut être disponible à 48 heures près pour sauter sur le bateau s'il y a une fenêtre météo. Donc chacun reste un peu chez soi. Mais c'est vrai que c'est excitant à la fois, mais en même temps très stressant nerveusement parce qu'on voit les jours qui passent. On est toujours impatient de vouloir partir. Maintenant, il faut choisir la bonne fenêtre météo.
Le record à battre pour ce trophée Jules Verne, c'est celui de Francis Joyon et de son équipage en 2017. 40 jours, 23 heures et 30 minutes.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous. Dans un instant, nous serons en ligne avec le gynécologue Israël Nizan, fermement opposé à l'allongement du délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. La proposition de loi a été adoptée hier soir par l'Assemblée nationale. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée avec Europe 1, il est 6h10. Votre invité, Julien, ce matin, est un professeur de gynécologie obstétrique au CHU de Strasbourg, ancien président du Collège national des gynécologues obstétriciens français.
Bonjour Israël Nizan.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Alors qu'hier soir, les députés ont, après une seconde lecture, approuvé la proposition de loi visant à allonger le délai légal de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Il passe ce délai de 12 à 14 semaines, ce qui va permettre, selon les défenseurs de ce texte qui doit encore être voté par le Sénat, qu'il n'y ait plus 5% de femmes hors délai et que des milliers d'entre elles n'aient plus à se rendre à l'étranger pour avorter. Vous, professeur, vous êtes non seulement opposé à cet allongement, mais vous demandez à l'inverse à raccourcir les délais d'accès. Pourquoi cela ?
Non. Savez-vous pourquoi les femmes dépassent le délai en France ? Parce qu'on leur donne des rendez-vous dans 4 semaines. Alors dire aux femmes, on ne peut pas vous prendre tout de suite, mais rassurez-vous, on a allongé le délai et on va vous faire une IVG tardive. C'est un bon coup politique et c'est un très mauvais coup pour les femmes. Plus une IVG est tardive, plus elle est dangereuse, plus elle est risquée et plus elle est lourde psychologiquement. Or, depuis 25 ans dans ma ville, on traite les IVG de manière urgente. Quand une femme téléphone le matin, on la prend l'après-midi. Il n'y a plus de dépassement de délai. Même pas 1% des femmes dépassent le délai sur 2200 IVG et celles qui dépassent, ce sont soit des adolescentes, soit des dénis de grossesse que nous prenons en charge en France, grâce à l'IMG psychosocial, que nous n'envoyons pas à l'étranger, mais on fait complètement autrement pour ces femmes qu'on encadre avec nos psychologues.
Donc mais ça, vous l'avez dit, ça c'est la réalité à Strasbourg. Il y a la réalité dans d'autres villes françaises, comme à Paris, où là, effectivement, il y a 4 semaines de délai.
Oui, donc ce que je propose, c'est qu'on mette les moyens, parce que changer la loi, ça ne coûte rien, et c'est de l'esbrouf. En revanche, mettre les moyens dans les centres d'IVG pour qu'ils accueillent les IVG en urgence le jour même et que l'IVG soit faite dans la semaine, je ne connais pas de femmes qui demandent une IVG tardive. J'en connais beaucoup qui demandent à ce qu'on les prenne tout de suite quand elles ont pris leur décision. Et donc l'IVG tardive, c'est une mauvaise manière qui est faite aux femmes en prétendant qu'il y en a 3000 qui vont à l'étranger. Mais qui a compté et comment est-ce qu'on a compté cela ? Et d'ailleurs, comment se fait-il qu'on envoie des femmes à l'étranger alors qu'il y a tout ce qu'il faut dans la loi de la France pour les faire en France ?
Pourquoi ces IVG tardives sont-elles, comme vous le dites, dangereuses pour la santé des femmes ? Expliquez-nous.
Bien, plus le fœtus est grand, plus il est ossifié, et plus l'extraction, ou plutôt la dilacération du fœtus est difficile. Et donc, quand on a un fœtus de 14 semaines d'aménorrhée, ce qui est la limite actuelle, le diamètre de sa tête est de l'ordre de 30 mm. Et sa tête n'est pas ossifiée. Quand on a un fœtus de 16 semaines d'aménorrhée, ce qui est le but actuel de certains qui, à mon avis, se trompent, le diamètre de la tête est de 45 mm et la tête est ossifiée. Eh bien, ça change tout. Techniquement, ça change tout, mais ça change tout également sur le plan de la lourdeur du geste pour les femmes et sur le plan du risque de complications.
Est-ce que vous craignez que certains de vos collègues gynécologues refusent à l'avenir de pratiquer des IVG tardives, justement pour ne pas être confrontés aux difficultés que vous venez de nous expliquer, pour ne pas risquer de mettre en danger la santé des femmes ?
Vous savez, j'étais à l'origine de l'allongement du délai de 12 à 14 semaines en 2001. Et je n'avais pas du tout anticipé que 30% des gynécologues se démettraient de l'activité d'IVG à ce moment-là. J'avais sous-estimé ce point. Là, on ne l'a pas sous-estimé. On sait qu'il y aura à nouveau 30% des gynécologues qui diront « Bah moi, je fais autre chose. Je m'occupe de contraception, je m'occupe d'autre chose que de faire des gestes dangereux et qui rebutent la plupart des médecins. » Alors, je ne suis pas là à dire « le confort des médecins passe devant le service aux femmes ». Je suis là à dire « est-ce que cette mesure est bonne pour la santé des femmes ?» Ma réponse est non. On va appauvrir le nombre de médecins qui font et on va proposer, au lieu de faire des IVG le plus tôt possible, on va proposer aux femmes d'attendre encore 2 semaines de plus pour faire un geste dangereux. Je ne suis pas d'accord.
Donc si je résume, professeur, pour vous, cette proposition de loi est non seulement nocive potentiellement pour la santé des femmes, mais en plus les mesures qu'elle comporte pourraient à terme aggraver la situation actuelle.
Mais c'est complètement sûr. On a sondé au niveau du Collège national des gynécologues obstétriciens parmi ceux qui font les IVG dans notre pays. Il y en a 90% qui disent manquer de moyens. Ça ne vous a pas échappé que l'hôpital manque de moyens actuellement et l'IVG par conséquent aussi.
Il y a 130 centres IVG qui ont disparu depuis ces 15 dernières années. Hein. C'est ce que dit le planning familial.
Alors c'était des tout petits centres qui n'avaient pas de rentabilité. Donc on n'est pas en manque de centres, on est en manque de sages-femmes, on est en manque de médecins, on est en manque de disponibilité pour faire les opérations et les cancers, mais aussi pour les césariennes. On est en manque de tout actuellement dans l'hôpital. Et on est aussi en manque de moyens pour faire les IVG. Donc à Paris, quand vous demandez un rendez-vous pour une IVG, on vous le donne volontiers dans 4 semaines. Et au lieu d'améliorer les choses en disant « Ok, on va mettre des moyens là où il faut pour qu'on prenne les femmes tout de suite », on leur dit « Rassurez-vous, on vous prend dans 4 semaines, mais on a allongé le délai, donc tout va bien ».
Merci beaucoup, Israël Nizan, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de gynécologie obstétrique au CHU de Strasbourg. Bonne journée à vous.
Au revoir.
Vous restez avec nous. Dans un instant, la partition de Laurent, vous le dit. À tout de suite.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, il est 6h19, voici les principaux titres de ce mercredi avec Alban Leprince.
Dernière ligne droite pour les Républicains, lancement aujourd'hui du congrès pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle. 5 prétendants en lice que les 140 000 adhérents devront départager, résultat samedi. Lui s'est officiellement lancé dans la course hier, Éric Zemmour, le candidat était l'invité du 20h de TF1 hier soir, une interview qu'il a qualifiée de procureur à la sortie du plateau. Les interdictions de voyage n'empêcheront pas le variant Omicron de se propager. Point de vue de l'OMS hier, des cas pourraient être identifiés en France dans les prochaines heures, selon Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a annoncé 47 000 nouveaux cas en 24 heures.
On termine avec votre partition, Omblin, comme chaque matin. Il est l'un des meilleurs mélodistes français qui a toujours su se renouveler. Depuis la rentrée, Laurent Voulzy se produit dans des églises et des cathédrales.
Des lieux tout indiqués, Julien, pour ce chanteur passionné de mystique et de spiritualité. Une chemise à jabot sur le dos, Laurent Voulzy allume des bougies à la moindre occasion. Il raconte que sa mère lui a offert pour ses 10 ans un château fort. Depuis, les chants du Moyen-Âge l'inspirent.
Jeanne, enfin je vais vous dire. Bien, je soupire. si loin, si loin d'ici.
Laurent Voulzy grandit à Nogent-sur-Marne, en région parisienne, au son de la pop anglaise.
Artiste au succès d'abord modeste, il rencontre son futur complice grâce au patron de leur maison de disques commune. Alain Souchon est bluffé par son interprétation des Beatles. Laurent Voulzy, de son côté, aime tout de suite la simplicité de Souchon. Le talent est de l'un est mis au service de l'autre. Mais lorsque la carrière d'Alain Souchon décolle, celle de Laurent Voulzy a du mal à démarrer.
Et la petite fille chantait.
Et la petite fille chantait.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Everybody's doing a brand new dance now.
Et en 1977, c'est grâce à une chanson de plus de 11 minutes chargée de vieux tubes anglais que son rêve se réalise.
Cette chanson quasi autobiographique, Rock Collection, est une révolution. Laurent Voulzy se révèle, son style sucré avec ses influences anglo-saxonnes s'affirme ensuite grâce aux mots de Souchon qui met en lumière son envie d'être une star malgré une timidité gênante. Timidité qui va d'ailleurs l'empêcher au début de monter sur scène.
J'ai mis ma vie à la gomme dans des guitares bubblegum. Ça paillait ta mort dans mon décor.
Exigeant et perfectionniste, Laurent Voulzy passe beaucoup de temps sur chaque chanson.
Les séances en studio sont interminables. Les accords et les arrangements ne sont jamais approximatifs. En conséquence, les albums sortent au compte-gouttes. Pour les mélodies, Laurent Voulzy compose ce qui lui passe par la tête, joue ce qu'il fredonne sur une guitare ou sur un petit clavier, comme en 1988, au moment où il prend l'avion.
Et avec cette nouvelle chanson qu'il est en train de créer, il a envie de faire passer un message de tolérance.
Alain Souchon, préposé aux paroles, connaît les difficultés qu'a connues son ami lorsqu'il était enfant, confronté au racisme ordinaire. Et si le premier couplet et le refrain étaient chantés ensuite dans d'autres langues ?
Tape sur nos systèmes, l'envie que tout le monde s'aime, le soleil d'âme. Vieux désir super, on serait tous un peu frères, le soleil donne. Le soleil donne, de l'or intelligent, le soleil donne. La même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment.
Soleil d'homme de Laurent Voulzy ou In the Sun Dance ou Olé El Sol, la version originale de 1988 dure 7 minutes, parfois plus, en concert. Laurent Voulzy sera ce soir et demain à la basilique de la Trinité de Cherbourg.
C'est noté, merci beaucoup Omblin. Dans un instant, Dimitri Pavlenko va s'installer dans ce studio, à tout de suite.